Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, mais parfois, je joue à des jeux. Et dans les jeux, il y a des buts, il y a des missions. Il y a des missions spéciales, des objectifs secrets. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais bien faire un objectif avec vous, me mettre une mission. C'est, ça va vous paraître un peu farfelu, mais d'augmenter la durée de votre vie. Ah, ça marche, ça. Contrôle total. Ok, cool, merci. C'est génial. Je voudrais bien, avec vous, augmenter la durée de votre vie de 7,5 minutes aujourd'hui. 7,5 minutes. Alors, ça semble pas beaucoup, mais en fait, l'idée, c'est que si on fait ça chaque jour, on gagne 10 ans. Voilà, le calcul, je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici au tableau, hein, donc on a bien, on va prendre la moyenne de vie d'un homme en général, elle est de 78 ans, hein, et on ajoute 10, ça fait 88 ans, c'est 10 belles années quand même, hein. Si on divise 10 par le nombre d'années totales, 78, ça fait 0,12, on va multiplier ça par le nombre de jours dans une année, ça fait 46 jours, et puis on multiplie ça pour avoir les minutes, des minutes, on passe à combien de minutes ça fait par jour, et combien de minutes ça fait pour chaque journée. Donc 7,5, c'est 7,668. Vous me pardonnez, j'ai raccourci à 7,5. Mais littéralement, je veux que vous puissiez vivre plus longtemps. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais prier? Est-ce que je vais utiliser ma foi et proclamer la puissance de Dieu dans nos vies pour qu'il l'onction de son Saint-Esprit nous revêtisse de puissance et on vive plus longtemps? Eh bien, je ne serai pas aussi spirituel aujourd'hui. Je vais faire autrement. Ma mission secrète est basée sur la formule mathématique suivante. Mais pour que je puisse avoir du succès dans ma mission aujourd'hui, j'ai besoin que vous vous accomplissiez des missions également, et que vous accomplissiez des quêtes. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça pour moi? C'est possible? Oui? Ça va vous maintenir éveillé, je vous promets. Alors, on va bien dire que 7,5 minutes par jour, ça fait quand même ça fait 10 ans en plus. Ça fait beaucoup de temps. On est d'accord, hein? Maintenant, moi, je vous prends un peu ici au dépourvu. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce temps? 10 ans en plus. Alors, pour vous décider ce qu'on va faire de ces 10 années en plus, je me suis permis de prendre un rapport de personnes qui travaillaient dans les hospices, dans les hôpitaux, dans les hospices. C'était des aumôniers. Et ils ont exposé les 5 plus grands regrets que les gens ont lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Là, 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 on est aux premières loges, on voit vraiment c'est quoi les gens qui regrettent. Est-ce que vous avez déjà eu des idées? C'est quoi les 5 plus grands regrets que les gens ont? Peut-être on aura des idées pour nos 10 ans. Se tracasser pour rien. Donc, pas autant de travail, pas autant de stress, ouais. Ne pas passer assez de temps avec sa famille, tout à fait, ouais, ça c'est vrai. Ne pas avoir prouvé son amour, ouais, ne pas être conforme à ce que les gens veulent qu'on soit de ça. Tu avais autre chose?
Attendu des années avant de répondre à l'appel de Christ.
Avoir attendu des années avant de répondre à l'appel du Christ, cette étude n'a pas été faite seulement avec des chrétiens, donc tout le monde n'avait pas la foi. Mais c'est tout à fait possible. Alors moi, je vais vous mettre ici les résultats de l'étude. Donc, quels sont les 5 plus grands regrets que les gens ont face à la mort? Le premier, c'est j'aurais voulu ne pas autant travailler. Alors, c'est facile, hein, celui-là. Je pense que je ne sais pas si en Belgique ça marche, aux États-Unis ça marche très très bien, mais j'aurais voulu ne pas autant travailler. C'est quelque chose que les gens sortent souvent. On vit un peu dans une société étrange. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On travaille principalement pour notre pension. Peut-être vous vous sentez pas concerné par ça, mais il y a beaucoup de gens qui prennent leur travail comme quelque chose juste, ok, je travaille pour ma pension et puis je ferai ce que je veux. Et puis quand on arrive à la pension, on est trop fatigué pour vraiment faire ce qu'on a envie. Je sais pas si vous avez déjà rencontré ça. En fait, lorsqu'on dit que quelqu'un nous dit qu'il n'aurait pas voulu autant travailler, il aurait voulu faire d'autres choses. Construire peut-être d'autres fruits quelque chose de professionnel. Une deuxième chose que les gens amènent, c'est qu'ils auraient voulu rester en contact avec des amis. Ça, c'est vraiment un deuxième regret que les gens expriment. Je vais les parcourir et puis on les verra un à un. J'aurais voulu être plus dans la joie. J'aurais voulu être moins stressé, ça se connecte. Hein. J'aurais voulu être plus dans la joie. J'aurais voulu être moi-même plus souvent. Ça, c'est un qui ressort beaucoup. Et le dernier, j'aurais voulu vivre une vie selon mes rêves et non pas selon ce qu'on voulait que je fasse. Hein. Je me rappelle très très bien mon professeur de droit à l'Université catholique de Louvain qui me disait, quand j'étais ici en études il y a un an et demi, il me disait, beaucoup de gens arrivent en droit et me font, après un an, oui, mais moi j'ai pas envie de faire ça, hein. C'est papa qui m'a obligé. Alors malheureusement, pour faire droit, il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est pas des études. Bon, certains ont la capacité de faire ça facilement, mais pas tous. Hein. Bon, allez, on entre dans le vif du sujet, j'aurais voulu pas autant travailler. Comme je disais, j'espère que les photos vont vous plaire. Hein. Comme je disais, quand quelqu'un dit qu'il aurait pas voulu autant travailler, il aurait voulu faire d'autres choses, construire d'autres fruits qu'un succès professionnel démesuré, passer plus de temps en famille, plus prier, plus lire la Bible, plus souvent. Souvent, je dois dire à des jeunes que la vie, c'est pas nécessairement des jeunes adolescents, hein, donc 12, 15, peut-être plus. Je dois dire souvent à des jeunes que la vie, ça ne doit pas nécessairement être une succession de moments où on s'amuse. Ça s'appelle l'hédonisme, c'est pour ceux qui veulent savoir. Et c'est l'idée qu'on vit pour le plaisir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans la société. Les gens vivent, quand ils sont jeunes, pour le plaisir. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Mais ils veulent ressentir des choses, ils veulent vivre quelque chose où ils ressentent que c'est vrai à l'intérieur. Ouais, heureusement, ouais. Le truc qui est embêtant avec l'hédonisme, c'est donc ce mot qui veut dire pour uniquement le plaisir, c'est que à long terme, ça porte pas nécessairement des bons fruits. Ça peut être très autodestructeur. Alors imaginez, vous voyez quelqu'un qui est en train de courir dans un mur. Vous voulez quand même si ça lui fait plaisir de courir dans ce mur-là, vous voulez quand même essayer de l'arrêter. Hein? Alors quand je dis que les jeunes essaient de vivre des choses vraies, c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'ils cherchent toujours à sentir des choses qui font plaisir. Je sais que pour certains d'entre vous qui sont nés bien avant, c'est une échelle de valeurs totalement différente. On avait avant les modernes, où il y avait des absolus, tout le monde croyait en quelque chose de ferme. On a eu des grandes, grandes philosophies qui sont nées. Et le monde, il était noir et il était blanc. Ça, c'est mes parents, par exemple. Le monde était noir, était blanc. Ici, les jeunes, le monde, il n'est pas noir et blanc. Tout le monde croit un peu ce qu'il veut. C'est très, très différent. C'est une approche totalement différente à la vie. Mais Dieu nous dit bien de construire notre vie, peu importe la génération dans laquelle on vient, sur des choses spécifiques et pas d'autres. Est-ce que ces regrets nous amènent à nous poser des questions? Il y a deux questions que j'ai mises là. La première, c'est sur quelle fondation on construit notre vie? Quel est le but de notre travail? Est-ce que c'est pour pourvoir à notre famille? Est-ce que c'est juste pour se sentir accompli? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Argent, pouvoir, succès? Il peut y avoir plein de raisons. On y reviendra. J'aurais voulu rester en contact avec mes amis. Le deuxième regret. Les circonstances ou les blessures, ou encore un manque de proactivité, de mouvement, nous font perdre le contact parfois à des gens qui nous étaient très chers. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de regarder en arrière et de se dire, tiens, cette personne-là, c'était quand même quelqu'un de précieux à mes yeux. Et je ne suis pas sorti de ma voie pour... Je suis un peu resté passif. Je n'ai pas gardé le contact avec eux. Et il y a quelque chose de précieux à voir dans les contacts qu'on a humains. Alors, il n'y a pas de meilleur endroit que l'Église pour les contacts humains, un milieu intergénérationnel et interculturel. Une autre question se présente quand on pense à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour proactivement rester en contact avec les gens qu'on aime? Est-ce qu'on met devant nous un mur de fierté? Parfois, je vois chez des gens que la fierté, c'est plus grand qu'une relation humaine. Il vaut mieux être fier et garder une façade, plutôt que de demander pardon, ou d'aller demander qu'on demande pardon. C'est parfois difficile, ça prend quelque chose en nous. Continuons. J'aurais voulu être plus dans la joie. L'idée exprimée ici, c'est j'aurais voulu me laisser être plus heureux, être moins stressé. J'aurais voulu être moins inquiet. Est-ce qu'on se permet même d'être heureux? Moi, je trouve ça très intéressant de voir les gens stressés lorsqu'ils commencent à se poser la question « Est-ce que c'est moi qui me mets le stress ou c'est le stress qui vient à moi ?» Ça, c'est une question dangereuse à se poser si vous êtes stressé. Est-ce que c'est moi qui me mets le stress? J'ai quelqu'un de très proche qui est spécialiste pour se mettre du stress, mais il le sait, donc il gère ça. Il sait très bien que il va être super stressé dans les moments intenses, mais c'est un petit peu un moteur pour lui. Et il sait qu'il ne doit pas trop faire attention à son stress, sinon il devient un peu borderline. Mais d'autres questions qui se posent, c'est est-ce qu'on se permet d'être heureux? Est-ce que l'on est capable de dire merci au Seigneur dans l'instant présent? La Bible nous parle bien de la joie. J'en avais d'ailleurs parlé ici une fois. Continuons, parce que sinon... Mais si, trop tard. J'aurais voulu être moi-même plus souvent. Est-ce qu'on porte des masques? L'amour propre, cela s'apprend. Et parfois, on est devenu des espèces de grands maîtres pour porter des masques, pour nous protéger et nous aider. Mais le problème des masques, c'est que ça a l'impression de nous sécuriser, mais parfois, ça nous empêche de nous exprimer. Ça garde des choses à l'intérieur, on n'est pas qui on est vraiment. Et c'est tellement dommage que Dieu ait fait quelque chose de tellement beau en chacun d'entre nous, si on essaie de se censurer. Hier, on parlait avec les jeunes, justement, de se censurer. On parlait, est-ce qu'en tant que chrétien, avec les gens proches, hein, attention, avec les gens proches, est-ce qu'on devrait vraiment se censurer? Est-ce que je devrais ne pas dire que ce matin, j'ai passé un moment dans la prière et que ça s'est très bien passé, que j'ai vraiment été béni par ce que le Seigneur a fait dans ma vie, que j'ai vraiment senti sa présence? Imaginez parler comme ça à quelqu'un de non-chrétien. On imagine parler comme ça à un proche. Est-ce qu'on est obligé de se censurer en tant que chrétien si vous avez des vrais amis dans vos vies? Est-ce qu'ils ne vont pas accepter cette partie-là également de vous, si ce sont vos amis? Alors peut-être la première fois, ça va faire un peu bizarre, mais après, c'est normal, c'est toi. Sommes-nous vrais? Portons-nous des masques? J'aurais voulu vivre une vie selon mes rêves et non pas ce que l'on voulait que je fasse. Si je fais ce travail car mes parents voulaient que je fasse ce travail, je n'ai pas pris de risque parce que tout le monde me le déconseillait, mes proches ne voulaient pas. Je disais, je n'ai pas le détail de l'étude sur la foi des gens, sur les... pourcentage de qui croyait en quoi. Mais ça, c'est ce que les gens disaient par rapport aux regrets qu'ils avaient. Le dernier ici, c'est est-ce que les gens se demandaient s'ils avaient oublié leurs rêves? Si après toute une vie, ils se demandaient, mais c'est peut-être pas ça que je voulais faire. Toutes ces questions nous font quand même réfléchir. Hein. C'est un petit peu trop pour un dimanche matin à 11h. Donc, je propose qu'on garde une photo de chat. Voilà, comme ça, ça met plus à l'aise, parce que comme ça, agresser là sur qu'est-ce qu'on va faire de nos vies, les regrets, c'est un petit peu beaucoup, moi je trouve, pour un dimanche matin. Alors je trouve que les chats qui se battent, c'est pas mal non plus. Voilà, ça c'est mon chat préféré, hein, je pense. Est-ce que ça va marcher? Il devrait se passer quelque chose. Ouais. Exactement. Bon, prochaine fois, on aura des photos de chiens, je ne sais pas. Voilà. Mais plus sérieusement, est-ce qu'il y a une vérité biblique pour une vie sans regret? Est-ce que la Bible nous enseigne des choses pour vivre une vie sans regret? Donc, comme je disais avant de continuer, toujours bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Hein. Comme je vous l'avais promis, vous pouvez obtenir votre mission si vous l'acceptez. Vous pouvez obtenir ce matin 7,5 minutes de vie en plus. Je sens qu'il y en a qui sont motivés, surtout là-bas. Tout ce que vous devez faire, c'est il faut juste que 4 quêtes soient accomplies ce matin. 4 quêtes. Donc, je répète, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une quête, c'est une mission. Petite mission. Et je sais que vous pouvez le faire. Moi, j'ai confiance en vous. Je sens le succès. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, vous êtes prêts? On commence. Votre première quête, si vous l'acceptez. Lève-toi et fais 3 pas. Ou mets tes mains au-dessus de ta tête pour 5 secondes. Première quête. Allez-y, je vous attends. Levez-vous et faites 3 pas ou mettez les mains au-dessus de votre tête pour 5 secondes. À ceux qui font le 2, j'aime bien. C'est un peu overachiever, c'est bien. Voilà. Voilà, il y a des super motivés, c'est bien. 4, 5. Ah, ça c'est bon, ça c'est bien, c'est réussi. Ah, c'est top. Alors, moi je tiens à vous dire que bravo, vous avez gagné en endurance physique. Votre corps peut supporter plus de stress et se soigner plus rapidement. Lorsqu'on n'est pas immobile, nous augmentons l'endurance de nos poumons, de notre cœur et de notre cerveau. Un médecin vous dirait que c'est particulièrement important à faire au moins une fois par heure, se faire bouger. Il y a quelque chose de très extraordinaire, une étude qui avait été faite sur cette position-ci de victoire chez les gens qui allaient faire une interview. C'est une position, ils ont demandé aux gens, avant d'aller faire leur interview, de se mettre comme ça pendant 10 minutes et de juste prendre confiance en eux. Et le fait de créer cette position-là, donc c'est une position de victoire, ils étaient devenus, ils étaient un peu programmés à avoir une mentalité de victorieux. C'était très intéressant. Amen. Mais c'est presque la même chose, c'est très très beau. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est juste 5 secondes. Moi, c'est pour, juste pour ma quête. Alors, est-ce que vous êtes prêtes pour une deuxième quête? À nouveau, n'oubliez pas, l'enjeu est important, 7,5 minutes de vie en plus. Hein. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle quête? Alors, on est parti, quête numéro 2. Claquer des doigts 50 fois ou compter à l'envers de 100 par 7. Allez, moi je vais commencer. 50, moi je suis bien là. Il n'y a personne qui a compté à l'envers de 100 par 7, je remarque. Hein. Alors, les mathématiques, c'est pas... Alors, je tenais à vous féliciter. Vous venez de gagner en endurance mentale, plus de concentration, de discipline et de volonté. La volonté, c'est comme un muscle. C'est pas une blague. La volonté, c'est comme un muscle. Cela s'entraîne des petits défis réussis. Augmente notre capacité de volonté. Si tu as dire à faire des grands défis, tu peux t'en mettre des tout petits et augmenter comme ça. On commence chacun à son niveau. C'est comme dans le sport. Il faut commencer à son niveau, sinon les gens abandonnent tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes toujours avec moi? Une troisième quête, si vous l'acceptez. Regardez à l'extérieur par une fenêtre ou faites une recherche sur Internet de bébé animal. Voilà, c'est comme vous voulez. Non. Alors, je sais que ceux qui veulent regarder par la fenêtre, il y a des fenêtres ici. Pour ceux qui n'ont pas Internet, j'ai mis des photos de bébés animaux qui sont absolument trop mignons, moi je trouve. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est le panda que je préfère. Qui dit bonjour. Voilà. Ce que nous ressentons, on vient de gagner de la résistance émotionnelle, de la capacité à être empathique, mais également des émotions fortes telles que la curiosité de regarder ce qui passe, de regarder ce qui se passe dehors ou un sentiment d'empathie pour quelque chose. Des recherches scientifiques montrent que si on est capable d'éprouver de la résistance émotionnelle positive 3 fois plus que la négative, il se passe quelque chose dans notre tête qui nous donne un avantage en santé et en concentration. C'est quand même extraordinaire. En même temps, si vous allez dire quelqu'un qui a l'air heureux, a l'air plus en forme. C'est assez logique si on y pense. Allez, votre quête numéro 4, si vous l'acceptez. Serrez la main de quelqu'un pendant 6 secondes ou envoyez un SMS à quelqu'un pour vous dire que vous l'appréciez par Facebook, par ce que vous voulez. Ou alors serrez la main de quelqu'un pendant 6 secondes. Je vous en prie. Il faut bien compter jusqu'à 6. Hein. Bien compter jusqu'à 6. Jusqu'à 6, c'est très important. On était jusqu'à 6 là. Excellent, excellent. Très très bien, très très bien, c'est bien, je vois que ça se passe plutôt bien. Vous avez gagné de la résistance sociale, félicitations. Vous avez connecté avec quelqu'un et vous pouvez en tirer de la force, du support de leur part, que ce soit votre famille, vos amis ou la personne à qui vous avez serré la main. Un point intéressant, si vous serrez la main de quelqu'un pendant 6 secondes, ça augmente dramatiquement le niveau de quelque chose dans le sang qui s'appelle l'ocytocine. C'est une hormone présente dans l'idée de confiance ou d'aide. Donc, si vous serrez la main à quelqu'un pendant plus que 6 secondes, il est programmé biochimiquement pour vous aider. Alors, ça va diminuer d'environ 50 minutes. Donc, si vous voulez demander de l'aide à quelqu'un, c'est le moment. N'hésitez pas. S'il y a un déménagement à faire, c'est le bon moment. Hein. Ah là là, voilà. Voilà, vous avez accompli 4 quêtes pour nous booster. Et tout ce qu'on vient de faire, hein, c'est pas de la blague, c'est basé sur les travaux d'une scientifique qui s'appelle le docteur McGonagall, qui est reconnue mondialement. En fait, les gens qui augmentent chaque jour leur résistance physique, mentale, émotionnelle et sociale vivent en moyenne 10 ans plus vieux que les autres personnes. 10 ans, c'est quand même assez vieux. Alors voyons maintenant si ma quête a été accomplie. Hein. Vous avez accompli la vôtre, maintenant il faut voir la mienne. Si je ne me trompe pas, les 10 ans en plus, on peut bien les ramener à ces 7,6 minutes que vous venez de gagner. Je vous félicite, vous venez de gagner 7,6 minutes aujourd'hui en plus pour la longueur de votre vie. Moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire, bravo, je vous applaudis. Alors, imaginons bien que vous faites ça chaque jour, cela peut s'additionner vers les 10 ans. Mais maintenant, j'aimerais bien un peu revenir à une perspective spirituelle. Il y a deux principes bibliques pour mener une vie sans regret. La première, c'est de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Et la deuxième, c'est remplacer nos soucis du monde par ceux de Dieu. Première, c'est faire la volonté de Dieu dans nos vies. La deuxième, remplacer nos soucis du monde par ceux de Dieu. Ah, je suis perdu. Voilà. Ça semble assez simple, hein, mais il est évident que nous avons été créés pour un but. Et d'une certaine façon, si on a été créé unique, il y a des choses pour lesquelles nous sommes faites et d'autres pour lesquelles nous ne sommes pas faites. Peut-être certains savent mieux que d'autres. Souvent, on se cache un peu de la face de Dieu pour ne pas faire sa volonté. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le réflexe de faire ça. Mais moi, parfois, quand j'entends ce que Dieu veut que je fasse et que je n'ai pas l'impression, ça me fait trop peur, j'ai envie de partir. Wow, c'est pas moi là, trouve quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour moi. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on est vraiment. Mais souvent, on a vraiment cette empreinte que Dieu a laissée en nous, qu'on sait vraiment ce qu'il désire de nous. On sait vraiment ce que Dieu attend de nous. C'est comme un sentiment à l'intérieur. Peut-être qu'on ne peut pas mettre de mots dessus, mais on connaît la direction générale. On se souvient où est-ce qu'on l'a entendu sa voix la dernière fois. Et c'est là qu'il faut revenir. C'est là qu'on peut trouver le chemin pour la suite. Cependant, on doit pouvoir se poser la question: est-ce que je suis en train de faire ce que je suis supposé faire? Est-ce que je suis en train de rester dans ma zone de confort? Ou est-ce que je suis en train d'avancer dans le royaume de Dieu? Ben oui, parce que pour mener une vie sans regret, il faut pouvoir se remettre en question. Parce que sinon la remise en question se fait dans les regrets. Et chacun doit se poser cette question. Même les pasteurs, les évêques, tout ce que vous voulez. Chacun doit régulièrement se mettre au pied du Sauveur pour y retrouver ce dont on a besoin. Ça peut être des forces, ça peut être du courage, ça peut être une direction, une réponse, ça peut être de l'amour. L'Esprit de Dieu est l'instrument donné par lui-même pour nous guider dans nos vies vers notre mission. Et si on a accompli 4 quêtes toutes simples, est-ce que Dieu n'aurait pas des quêtes aussi simples pour nous, pour nous rendre plus heureux, pour pas seulement augmenter notre vie physique, mais également notre vie spirituelle? Remplacer nos soucis du monde par ceux de Dieu est une clé pour vivre une vie sans regret. La Bible dit qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler la tristesse de Dieu, qui est différente que la tristesse du monde. Ça se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Je vais vous le lire. « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut, dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort. » Je vais relire ça parce que c'est vraiment beau. « Car la tristesse qui est selon Dieu opère une repentance à salut, dont on n'a pas de regret. Mais la tristesse du monde opère la mort. » Si on remplace tous nos soucis qui nous habitent par le cœur de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe. C'est qu'au lieu que ça nous mange, que ça nous prenne vraiment notre énergie physique, émotionnelle, intellectuelle, sociale, ça vient nous nourrir. Même quand Dieu partage ses rêves, où il nous demande de faire des choses, il ne va pas te demander de faire quelque chose sans te donner la force pour le faire. C'est pas simplement qui il est. L'apôtre Paul est un exemple de vie sans regret pour nous. Maintenant, l'apôtre Paul, il a très mal commencé, vraiment très mal. Du temps où il était jeune, pharisien, il s'appelait Saul. Paul a commis des actes qu'il a plus tard regrettés. Il a par exemple mené une campagne de violente persécution contre les disciples du Christ. La Bible rapporte qu'après le martyre d'Étienne, Saul se mit à traiter la congrégation avec violence, pénétrant dans une maison après l'autre et traînant dehors hommes et femmes, il les livrait à la prison. Paul, il a fait la même chose que ce que les SS ont fait avec les Juifs en 40-45. C'était vraiment quelque chose de très très dur. Selon la bibliste, M. Barnes, le mot grec rendu pour « traiter avec violence » est un terme fort qui dénote le zèle et l'acharnement avec lequel Saul a mené la persécution. Ainsi, Saul enrageait contre l'Église comme une bête sauvage. Très attaché au judaïsme, il estimait de son devoir devant Dieu d'anéantir le christianisme. C'était un vrai fanatique. Voilà pourquoi il a traqué les chrétiens avec férocité, respirant menaces et meurtres contre hommes et femmes. Acte 9, verset 1, 2, et puis chapitre 22, verset 4. Saül, bien sûr, on connaît la suite, avait l'intention de se rendre à Damas, d'arracher les disciples de Jésus à leur foyer et de les traîner de retour à Jérusalem pour les mener vraiment devant justice, pour les exposer à la colère du Sanhédrin qui était le conseil religieux d'autorité de l'époque. Mais il n'est pas parvenu parce qu'il y a le chef de la congrégation chrétienne qui est venu devant lui et qui a dit « Stop, bien sûr je parle de Jésus ». Tandis qu'il progressait vers Damas, Jésus lui a fait obstacle et l'a aveuglé d'une lumière surnaturelle. Puis il l'a envoyé à Damas avec l'ordre d'attendre d'autres instructions. La suite, nous la connaissons. Sitôt devenu chrétien, Paul a revu tout ce à quoi il était attaché. Vraiment tout, tout remis en question. Cet ennemi implacable du christianisme, il en est devenu le défendeur, le proclamateur. Pourtant, il est plus tard dit de lui-même, « Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme, et vous savez que c'est jusqu'à l'excès que j'ai continué à persécuter la congrégation de Dieu et la dévaster. » C'est Galate. Hein. Plus tard encore, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, aux Philippiens et à Timothée, il mentionne à nouveau ce passé de ce qu'il regrettait. Paul, c'était pas quelqu'un qui était fier de son passé. Il n'a pas fait semblant que rien ne s'était passé. Il savait pertinemment qu'il avait commis de graves erreurs. Paul savait que s'il était permis d'accomplir son ministère, c'était uniquement grâce à la faveur non méritée de Dieu. Paul avait vraiment cette conscience de la puissance de l'Évangile dans sa vie. Si tu penses que tes circonstances sont terribles, imagine celles de Paul. Alors Paul, souvent, il y a plusieurs avis sur la question, mais il se nomme parfois le plus grand des pécheurs. Alors, peut-être que pour certains, ça fait un petit peu de trop, parce que Paul n'était sans doute pas le plus grand des pécheurs, et il y a sans doute avoir pire comme pécheur, moi j'en suis certain. Mais, qu'est-ce que Paul veut dire par là? C'était que si Dieu l'a sauvé lui, eh bien il peut te sauver toi. C'est ça qu'il veut dire dans tes lettres. Si moi qui persécutais le peuple même de Dieu, Dieu est venu me voir pour me sauver, alors toi aussi, il veut te prendre et te ramener à la maison. C'est un message très très beau en fait, c'est une preuve d'amour inconditionnel de Dieu. Paul mentionne plus de 90 fois dans ses 14 lettres, plus que tout écrivain biblique d'ailleurs, hein, il était profondément reconnaissant à Dieu de l'avoir traité avec miséricorde. Il voulait tout faire pour montrer à Dieu que Dieu ne lui avait pas donné cette faveur pour rien. Voilà pourquoi est-ce qu'il a peiné de bien plus que tous les autres apôtres, on va dire. Son exemple nous peut nous convaincre que si on confesse avec sincérité les choses qui sont dans le cœur, et je ne parle pas de ce qu'on va dire dans nos églises, les grands péchés, mais je parle de nos attitudes de fierté, de nos attitudes peut-être de pensée qui nous empêche de vraiment mettre Jésus à la première place dans la vie. Je rappelle, c'est un effort constant, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire, chaque jour, se rappeler que c'est lui qu'il faut mettre à la première place. Comme je le disais avant, c'est là une leçon très importante pour celui qui a du mal à croire que le sacrifice de Christ puisse le racheter de ses problèmes. De n'importe quoi. Je me rappelle très très bien, et je vais finir avec cette histoire-là. Quand j'avais 21 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression majeure. J'étais en première année d'école biblique au CTS à Bruxelles, et j'ai été vraiment totalement anéanti par ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. C'est une maladie psychologique qui affecte vraiment l'âme, où on a l'impression que tout est gris devant ses yeux. Si vous voulez, vous imaginez quelqu'un qui voit le monde. Un dépressif, la meilleure manière que j'arrive à l'exprimer, c'est comme si vous aviez une tenture de vos yeux qui filtre tout ce qui passe. Et tout a l'air sans espoir, vide. C'est absolument terrible. Et je me rappelle très bien ce moment critique. J'étais parti du CTS, de l'école biblique, j'étais vivre avec mon grand frère, Sylvain, pour faire une école de commerce. Je m'étais donné d'autres buts, un peu perdus, hein, dans... Quand on est en dépression, c'est pas le bon moment pour faire des grands choix, on se perd un petit peu là-dedans. Et j'ai fait cette prière à Dieu alors que j'étais vraiment dans un moment noir où je sentais plus d'espoir dans la vie et la mort commençait à m'attirer. Je disais, Jésus, c'est pas normal l'état dans lequel je me trouve. Jésus, c'est pas normal la façon dont mon cerveau voit le monde. Je vois bien, c'est pas ce que ta parole dit. Et juste avec ce petit bout de foi, j'ai senti dans mon cœur une graine de paix. Vraiment une graine de paix, quelque chose qui était là. Que Dieu, il n'y avait pas d'ange qui est venu, qui a cassé la vitre et qui m'a proclamé libre en Christ. C'était juste quelque chose dans mon cœur, une certitude. Et puis Dieu, dans toute sa grandeur, a bougé son échiquier céleste et a mis des gens dans ma vie d'horizons différents, de personnalités différentes, qui ont commencé à parler et qui ont été un petit peu parlé aux racines de ma dépression. J'étais quelqu'un de très beaucoup en colère, mais comme on ne m'avait jamais appris à exprimer cette colère-là, elle était restée à l'intérieur. Alors je ne sais pas si la colère vous connaissez, mais si on n'exprime pas la colère, elle reste à l'intérieur, et puis on oublie pourquoi on est en colère, et à la fin, on est juste fâché après soi. Beaucoup de colère. Je me rappelle d'ailleurs, le truc le plus drôle, c'était cet Italien que j'avais rencontré au CTS, qui, lorsque lui était en colère, n'avait aucun mal à l'exprimer, à l'italienne. Quand je l'avais vu, j'avais senti quelque chose là-bas. Ah oui, je comprends ce que Dieu veut me montrer. Et également, au moment où j'ai pu commencer à étudier la psychologie, où je commençais à retrouver des mécanismes, à pouvoir voir si les mécanismes étaient justes ou pas. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui le plus grand des psychologues. Alors, vous voulez bien peut-être le croire ou pas, mais lorsque je lisais ces livres de psychologie, moi je me sentais dirigé vers la bonne direction, vers la bonne philosophie psychologique, où le Saint-Esprit me montrait vraiment, c'est à cause de ça qu'il se passe. C'est intéressant de voir que le Seigneur ne m'a pas transformé d'une façon miraculeuse. Il m'a mené sur un chemin. La chose la plus frappante que le Seigneur m'a dit pendant ce moment-là, c'était « Benjamin, on peut soit faire ça maintenant, ou soit faire ça quand tu as 40 ans. » Ça, c'est quelque chose qui a résonné à mes oreilles. Et ça parlait de regret. Alors moi, je veux mettre chacun devant la croix aujourd'hui, ce matin. Je veux que chacun en ait une réflexion personnelle. C'est vraiment par rapport à soi. Il n'y a personne d'autre qui est inclus. Est-ce qu'on est en train de partir sur une voie qui va provoquer des regrets en nous? Est-ce qu'on est en train de partir sur une voie qui nous envoie dans le mur, en fait? Si tu te sens bloqué, si tu te sens que tu as l'impression de faire du surplace, eh bien, demande à Dieu de venir mettre cette graine de paix. Il ne faut pas quelque chose d'extraordinaire, il ne faut pas un prédicateur d'Afrique du Sud qui est évangéliste. Il faut juste Jésus-Christ qui vient te confirmer que à la fin, il est là. Attention, Dieu nous considère tous comme des adultes. Évidemment, chacun a son temps et chacun a son moment, mais ultimement, Dieu nous remet devant nos responsabilités parce qu'il veut qu'à la fin, toi, tu puisses dire « J'ai choisi Christ ». Si Dieu ne faisait pas ça, on serait des robots. Il veut que toi, à la fin, tu puisses dire « J'ai eu difficile, mais j'ai pris la décision de suivre Christ ». Et ça, c'est une décision d'amour. Ce n'est pas une décision sentimentale, c'est une décision vraie d'amour. Donc, alors que je prie, je vous encourage vraiment à avoir cette réflexion. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je laisse comme regret? Qu'est-ce que je dois mettre devant toi? Seigneur Tout-Puissant, je veux te remercier pour ta parole ce matin.